travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH où elle se trouve auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on demande à notre expert du jour, Emmanuel Parvillez, directeur des RH France chez SAD Telecom, de nous rejoindre.
Alors SAD Telecom déjà, bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour Emmanuel. SAD Telecom, hein, très bien connu, spécialiste des réseaux filaires haut débit et très haut débit. Spécialiste donc de la fibre optique, ADSL, etc. Je dis etc. Partenaire en fait des opérateurs de télécommunications, des opérateurs d'infrastructures et des collectivités, etc. Vous venez nous présenter un petit peu
qui SAD vous êtes
Telecom et la... La petite quand même nouveauté entre SAD et SAD Telecom hein, qui a son importance par rapport justement aux enjeux RH dont vous allez nous parler.
Absolument, merci Thibault donc, de me donner la parole. Je suis donc depuis le 1er janvier et donc depuis son indépendance le DRH du groupe SAD Telecom qui est un spin-off du groupe Veolia et plus particulièrement de sa filiale SAD. Qui était spécialisé dans le déploiement de réseaux d'eau, hein, puisqu'il appartenait au groupe Veolia. Et par extension, on a déployé des fibres et des fils de cuivre dans les souterrains qui étaient creusés à cet effet. Mais on vient de prendre notre indépendance et on est sur un marché où on va se diversifier. On est, comme vous le dites, sur le déploiement de la fibre optique en France, partout sur le territoire, mais aussi des réseaux hertziens. On passe au 5G. Et bientôt 6, 7, 8, 9, 10.
Rien à voir avec le vaccin. Hein.
Absolument, non, rien à voir.
Ok, on est déjà rassuré sur ce point.
Donc, SAD Telecom, c'est 3000 recrutements, c'est 3000 personnes aujourd'hui,
ouais, collaborateurs.
Quelle évolution en termes de nombre de recrutements à l'année?
Alors, SAD Telecom croit particulièrement son chiffre d'affaires, mais de fait également par la prise de marché, ses effectifs. Et on a 10 à 15% d'augmentation des effectifs par an. Donc, comme d'accord. Vous dites, on est 3000. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on sera 3300 intérimaires compris l'année prochaine, à la fin de l'année. Et on a des prévisions de croissance du même acabit pour les prochaines années.
D'accord.
Sur les 3000 collaborateurs, du coup, on peut avoir une répartition, parce qu'effectivement, pour dérouler des kilomètres de fibres, il faut des techniciens. Vous avez une répartition sur les 3000 collaborateurs, nombre de techniciens, ingénieurs
Oui, alors on a à peu près 2/3 de nos effectifs sur le terrain, sur ce qu'on appelle des chantiers, hein, donc de déploiement de fibres avec diverses compétences. En fibre optique, comme on dit, mais aussi en cuivre, puisqu'on maintient les réseaux existants. En radio, c'est pas la même chose de monter une antenne, hein, les antennes que vous voyez. Donc effectivement, beaucoup de gens sur le terrain. Et puis le reste des effectifs, eh bien, ce sont des chargés d'études. Hein. On a un bureau d'études très important. On met pas les fibres n'importe où. Hein, il faut les déployer au bon endroit et utiliser les bonnes méthodes. Et puis des encadrants, hein, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier et l'ensemble des cadres fonctions support qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise.
Alors comment ça s'est passé? On est presque dans l'après-Covid. En tout cas, on a entamé ce grand processus qui sera certainement un peu long. Mais comment ça se passe et comment ça s'est passé? Comment ça se passe aujourd'hui? Et surtout, comment vous avez vécu finalement toute cette période un peu complexe pour une entreprise?
Alors comment on l'a vécu? D'abord, on est très dépendant quand même de nos clients et notamment Orange, qui est un grand client. Et vous imaginez que, en fait, quand la crise a débuté, tout s'est arrêté. Donc nos clients se sont arrêtés, nous, on s'est arrêtés avec. Cela dit, on est sur un secteur où il y a eu une forte demande pendant la crise sanitaire, du fait du télétravail, du travail en remote qui a explosé, finalement. Hein, beaucoup de gens sont passés à la fibre.
Ça a été positif, du coup, pour vous.
Hein. Absolument. Donc moi, le premier, je dois dire, j'ai commencé avec la DSL, j'ai fini avec la fibre.
Ça change une vie. Hein.
Absolument. Ça change complètement la vie. Non, mais en réalité, donc, nos équipes sont très vite revenues au travail, donc avec tous les gestes barrières nécessaires, le protocole sanitaire à mettre en œuvre. Et là-dessus, on a suivi donc, toutes les directives gouvernementales. C'était déjà un gros travail de RH de faire, mettre en œuvre l'ensemble du protocole sanitaire pour que tous nos techniciens sur le terrain puissent être protégés et faire leur travail, qui était très attendu.
Mis combien de temps à peu près à vous organiser de cette manière ?
Ça a été très vite parce que finalement, on a été obligé de se mettre en marche très rapidement. Donc je dirais qu'en un mois, finalement,
Même pas à la fin finalement du premier confinement.
Non.
Dans le premier confinement, vous avez réussi à vous organiser très vite.
Bah, absolument. Pendant le premier confinement, on s'est organisé pour mettre en œuvre la reprise de l'activité. Finalement, avec un peu de recul, maintenant ça fait un peu plus d'un an, le premier confinement, ça a duré 6 semaines. 8 semaines.
Exactement.
Donc ça a été très rapide finalement. Et pendant ce temps-là, on s'est énormément organisé pour pouvoir reprendre l'activité à plein.
Vous n'êtes pas en lien avec des clients directs, vos techniciens, donc travaillent...
Ils sont directement... Absolument. Ils sont pour la plupart en ce qu'on appelle la D3, la dernière fibre jusqu'au domicile, ou le dernier fil de cuivre. Ils sont au contact du consommateur. Finalement, on peut appeler ça le consommateur. Qui est le client d'Orange, le client de Bouygues, de Free, etc. Donc nos techniciens vont chez le particulier pour installer. Ouais. Donc ils sont bien au contact de la clientèle. Ouais.
Qu'est-ce que vous mettez en place pour recruter en fait cette population ? Parce qu'on le sait, ils sont très convoités, pas que par vous, par d'autres entreprises. Est-ce que vous avez des leviers spécifiques ? Est-ce que vous pensez à votre parcours candidat, votre expérience, et est-ce que ça a changé des choses par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le Future of Work ?
Absolument. Donc, on a des partenariats pour recruter, puisqu'on a beaucoup de recrutements, comme je vous l'ai dit en intro. On est sur un marché très concurrentiel, vous faites bien de le dire. Donc, on a en fait une pénurie sur notre marché principal, qui est celui du technicien télécom. Et donc, on a des partenariats. On a des partenariats avec des agences intérim. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait un volant d'intérim important, c'est du pré-recrutement. Ils sont spécialistes du sourcing, donc c'est important d'avoir des partenariats avec eux.
Donc on passe d'abord comme intérimaire avant d'arriver en CDI chez vous, c'est souvent le
généralement
parcours.
On passe d'abord par une agence intérim pendant on va dire entre 6 mois et 1 an, avec ou non une formation. On forme aussi finalement les gens qui veulent bien faire ce métier, qui sont intéressés par ce métier. Donc, dans le cadre de ces partenariats avec les agences intérim, on met en place des programmes de formation qualifiants. Et on a des partenariats avec Pôle emploi, tout simplement, ou des agences d'accompagnement vers l'emploi. Je pense au Cap emploi pour le handicap, par exemple, aux missions locales pour les plus jeunes, donc avec lesquelles on travaille pour former, finalement, nos techniciens télécom de demain. Et on les intègre de cette manière-là, donc contrat d'apprentissage, contrat de qualification, CDD, tous les moyens sont bons, je dirais, pour arriver finalement à recruter les bonnes personnes pour nous sur le terrain.
Ok, qui dit croissance du coup, dit recrutement, on en a parlé, qui dit recrutement en période de Covid, spécificité particulière sur ce
entretien vidéo
typologie de personnes, parce qu'effectivement là on parle quand même de techniciens, effectivement on rencontre beaucoup de clients avec qui... on enregistre des recrutements col blanc, j'ai envie de dire, dans le sens où ça nous semble un peu plus facile, visio, onboarding, le package, recrutement, etc., et welcome pack. Là, un technicien, comment on le recrute pendant cette période ?
Alors, ce qui est très important...
Comment on le recrute aussi, hein ? C'est intéressant. Est-ce que les techniciens, finalement, en visio, vos recruteurs ont pu passer en fait, des entretiens, aller au bout de la démarche et les intégrer ?
On n'est pas allé jusqu'aux entretiens en visio avec les techniciens. Ce qu'on a mis en œuvre, en fait, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est en premier lieu un travail sur notre image, notre aura, pour que finalement on soit connu sur le marché. Alors localement, j'ai envie de dire, on est assez... nos partenaires font de la promotion pour que les gens soient intéressés par notre entreprise, nos métiers, etc. Donc la communication, c'est un moyen important d'attirer du candidat. Mmh. Donc là, tous les moyens sont bons et on développe évidemment notre image au plus possible. Ensuite, eh bien, on a rencontré, tant que faire se pouvait, les techniciens. Ce sont des gens de terrain, donc on peut difficilement finalement mettre en place des moyens qu'on utilise beaucoup plus facilement et qu'on a immédiatement mis en place pour les conducteurs de travaux et les autres cadres ou agents de maîtrise qu'on a pu recruter et qui sont plus sédentaires, en fait. Et là, finalement, dotés de moyens technologiques différents, plus aguerris peut-être au travail en remote. Donc là, ça a été assez naturel. On l'a mis assez facilement en place. Pour les techniciens, c'est plus voilà, la réputation, l'image. Ensuite, on les rencontre pour les mettre sur le terrain. On est vraiment obligé. Concrètement, aujourd'hui, on n'est pas doté de tous les outils suffisant, je dirais, pour qu'ils soient intégrés, onboardés, et c'est un enjeu qu'on a pour l'avenir, de manière concrète.
Mmh. Donc finalement, d'aller plus loin dans le parcours candidat, de faire en sorte d'intégrer les gens, pourquoi pas demain en digital, vous y pensez en
c'est
tout
ce sur quoi on travaille, en
d'accord,
fait.
D'accord.
On n'y pense pas seulement, on y travaille. L'objectif, c'est vraiment donc attirer les candidats, je dirais, sur le web, par les réseaux, et puis derrière, de les intégrer de manière digitale aussi. Mm. On pense au pré-onboarding, c'est-à-dire avant même que la personne intègre l'entreprise et pendant qu'elle est soit en formation, soit en préavis dans une autre entreprise, commencer à communiquer avec elle. Donc il y a pas mal d'outils qui sont sur le marché pour trouver des solutions à ça. Et puis ensuite, une fois que la personne est entrée dans l'entreprise, la former finalement à nos métiers, à nos pratiques, à la sécurité, qui est un point primordial pour nous, avec le volume de recrutement, je dirais même hors crise sanitaire, on a tellement de gens qui arrivent qu'il nous faut des outils pour que finalement ils s'auto-forment. Et donc voilà, des outils d'onboarding. Donc on digitalise. On a projet de digitaliser notre pré-onboarding et notre onboarding.
Ok, d'ailleurs. Comment ça va se passer concrètement, même si vous n'avez pas les réponses aujourd'hui, puisque vous y travaillez? Il y a peut-être des bribes d'idées à donner aux personnes qui nous écoutent sur la façon dont on peut onboarder un technicien, par exemple.
Alors, on y travaille déjà, en fait. J'ai des petites idées, effectivement. Bon, alors, la première chose, c'est évidemment de continuer à lui donner envie de travailler chez nous. Donc, c'est l'informer sur qui on est et quels sont nos objectifs. Mmh. C'est très important qu'on connaisse notre futur. On ne connaît pas forcément qui nous sommes dans notre histoire. Donc ça, on donne quelques éléments. Mais aussi, voilà, qui on a envie de devenir et donc nos valeurs, notre culture managériale, etc. Ensuite, il y a les pratiques. Des choses très concrètes, en fait, finalement, qu'on peut montrer très rapidement. Et notamment, je parlais de la sécurité. Donc là, on est en train de travailler sur un e-learning, finalement, d'onboarding sur la sécurité.
Comment ça se passe? Je suis désolé, je fixe sur les techniciens parce que ça représente quand même 2/3.
C'est notre plus gros volume de recrutement.
Comment ça se passe, la connexion avec eux, c'est-à-dire comment vous les tenez informés, puisque souvent, ce qu'on nous rappelle, c'est que ces collaborateurs-là n'ont soit pas de connexion, en tout cas pas d'ordinateur, et ou d'adresse mail, parfois ça arrive, et ou de téléphone pro. Comment on reste en contact avec cette population-là et on la fait rester dans la boîte et on la tient au courant?
On a une solution évidente, en fait, c'est qu'ils sont tous dotés, en fait, d'un smartphone et d'une adresse email, donc ils sont tous connectés. Ça, c'est une grande chance et c'est aussi une facilité pour nous la digitalisation. Mmh. Ils travaillent quand même dans le déploiement de la fibre et des réseaux hertziens. Je pense que c'est essentiel qu'ils aient le matériel. C'est des gens sensibles à ça aussi. Et donc finalement, on a tous les outils pour digitaliser et rester en contact avec eux. Je pense que c'est vraiment... c'est l'avenir d'imaginer que chaque collaborateur, y compris... un collaborateur qui a une action concrète, on va dire manuelle, sur le terrain, puisse être en contact avec son entreprise de manière digitale. Et si ce n'est pas à travers des outils qui sont mis à disposition par l'entreprise, le Bring Your Own Device est tout à fait en cours, et maintenant, avec les systèmes SSO, c'est peut-être un peu technique, mais pour les aguerris, on a le moyen de sécuriser toute connexion sur n'importe quel
système SSO,
smartphone.
Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est un moyen d'entrer en sécurité dans un réseau par un point identifié, une adresse mail identifiée.
Ok, donc sur la partie onboarding, vous êtes en train de réfléchir, SAT Telecom, à une projection à moyen long terme, va permettre, un peu comme des tutos aux collaborateurs, de passer d'une étape à une autre, step by step, pour que vous puissiez intégrer de manière plus digitale en fait, les collaborateurs de demain et d'aujourd'hui. Donc. Ok, vous avez commencé à parler de leadership, de management. Est-ce que le moment qu'on vient de vivre est un moment clé aussi en termes de management? Vous avez des métiers très différents pour le coup, dont des gens qui ont dû passer du temps en fait, sur le terrain et puis d'autres passer du temps chez eux. Est-ce que finalement, il y a eu des méthodes de management qui ont évolué, qui ont changé? Comment vous vous positionnez là-dessus?
Alors évidemment, hein, comme pour finalement tout le monde, on a vécu quelque chose de tout à fait différent en termes managériels, en tant que manager, en tant que collaborateur, en remote. Alors pour les gens qui étaient sédentaires, qui avaient l'habitude de se voir, ça a été quand même un choc psychologique assez important. Et on a mis en place des formations, notamment on était encore dans le groupe Veolia à l'époque, Veolia a mis en place des formations pour le management d'équipes en remote. Là aujourd'hui, on pense à développer, puisque maintenant on décide de ce qu'on va mettre en place, des formations toujours en e-learning, hein, bien sûr, au management à distance. Donc de manière plus pérenne finalement et pour toute population.
Donc sur l'ensemble de vos sujets, vous imaginez les choses vraiment comme une expérience qui va plus loin que l'expérience
absolument.
Actuelle.
Absolument. On va se positionner dans la continuité de ce que la crise sanitaire a généré finalement.
Il y
a
du
bon.
Fil.
Il y a du bon, exactement. Il y a des choses qui étaient sur le point d'arriver finalement
bien
avant
sûr.
La crise sanitaire.
Oui,
hein,
on voit dans les grands groupes.
Voilà.
Travail,
exactement. On parlait de digitalisation. Ça s'est juste accéléré, en fait. Ça s'est juste accéléré. Et donc, en fait, on saisit l'opportunité. Je dirais, nous, en tant que, finalement, entreprise de taille quand même assez modeste, on saisit vraiment cette opportunité de construire quelque chose de tout à fait dans notre temps, moderne, et qui va s'adapter à ce qui est né avec la crise.
Vous parlez de Veolia juste avant. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, ou en tout cas... À date, vous avez pu tirer des leçons, même si c'est quand même assez récent, de ce qu'on peut faire, les avantages et les inconvénients d'un grand groupe et où, là aujourd'hui, d'une taille plus petite, en tout cas plus gérable. Je parle en termes de proactivité, d'organisation, d'innovation, en tout cas pas de laisser aller, parce que c'est vrai que souvent on a des paramètres qui sont un peu figés dans les grands groupes, en tout cas c'est ce qu'on en entend. Est-ce que du coup là vous avez vu déjà une différence ou ce qui est déjà très bien dans les grandes entreprises d'ailleurs, oui. C'est tous les packages d'outils qu'on propose, qui sont proposés, donc ce côté organisationnel, mais parfois il fait défaut aussi, il est trop justement organisé et,
Alors je vais pas parler de Veolia parce que moi j'ai rejoint SAT Telecom une fois qu'il a pris son indépendance. En revanche, j'ai fait l'ensemble du reste de ma carrière dans des grands groupes et notamment le groupe Bell dernièrement. Donc je sais à peu près quels sont les moyens qu'on peut avoir dans des grands groupes. Et en fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une question de moyens, c'est plus une question d'intention en fait et de moyens d'action. C'est-à-dire que clairement, dans un grand groupe, on a l'intention d'aller plus loin que ce que le marché fait. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose. Et moi, je dirais, elle fait partie de mon ADN professionnel, en quelque sorte. Ouais. Et donc, cette intention, je l'ai aussi bien chez SAT Telecom. Donc, on a clairement, avec le comité de direction, la volonté, finalement, d'être moderne, de se doter des outils les plus performants et ceux de l'avenir. Voilà. Après, en termes de moyens d'action, clairement, c'est pas la même chose. Et je dirais que là, finalement, l'atomicité du marché, c'est-à-dire toutes ces petites entreprises qui proposent finalement leurs applis, leurs solutions, finalement c'est une facilité pour nous parce que voilà, ça fait de la concurrence sur le marché aussi. C'est pas toujours, enfin c'est assez modeste, c'est des outils qui sont développés avec pas énormément de moyens au départ. Et donc, on ne commence pas par le gros outil et puis la big data, mais je crois qu'il y a moyen aujourd'hui. de mettre en action finalement des innovations rupturistes, ouais, dans des entreprises de taille intermédiaire. Donc voilà, on voit une différence en ça que on fait plus peut-être attention, ou on a moins tout simplement de moyens d'action à disposition, mais je pense que on a tout à fait les moyens d'y arriver, et en plus peut-être plus rapidement.
Ouais, du coup la période nous a, c'est ce qu'on introduisait, hein, la période nous y a poussé, et nombreuses sont les entreprises aujourd'hui qui avaient des sujets, alors j'allais dire en veille, non, mais des sujets quand même qui datent, pour la plupart, je parle du télétravail parce que c'est vrai, c'est assez symptomatique, et ça, on a cristallisé là-dessus, parce qu'effectivement on a été obligé d'être parfois en full remote, mais c'est vrai que c'est des sujets qui ont avancé très vite, et nous la question qu'on se pose ici c'est, et d'ailleurs patati patata vient de là l'émission, c'est de se dire, on entend beaucoup de choses un peu partout, notamment là pendant ces périodes, on lit beaucoup de conseils de la part de personnes qui vivent pas forcément ça de l'intérieur, et c'est pour nous une opportunité de pouvoir demander à un DRH comme vous les évolutions, en tout cas le coup de kérosène que ça a mis, que ça a mis dans le moteur pour faire bouger les choses. Il y a du bon, il y a du moins bon, parce que socialement, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a quand même, il y a eu quand même une problématique de, parfois de solitude de certains collaborateurs. Mais par contre, après, c'est vrai, au niveau innovation et rupture, je pense que ça a mis un coup, et ça a permis aussi d'imaginer la suite. En tout cas, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais vous l'avez déjà un peu dit, mais la suite comme un modèle nouveau, et pas juste un modèle séquentiel de l'année dernière à cause du Covid, quoi.
Clairement, on peut pas s'arrêter et reprendre comme avant. Je dirais que aujourd'hui l'ensemble de la société et l'ensemble de nos collaborateurs ont vécu quelque chose de différent, et évidemment pas question de revenir en arrière.
Est-ce qu'on s'y habitue, ça, pour un collaborateur? Est-ce qu'un collaborateur s'y habitue?
Je pense que on n'a pas eu le temps de prendre des habitudes, puisque vous l'avez dit, on observe plusieurs phases quand même dans cette crise sanitaire à propos du télétravail. Il y a eu le premier choc, tout le monde s'est mis au télétravail, et de toute façon on y était obligé, et voilà, la confiance a été forcée, j'ai envie de dire, elle existait ou elle n'existait pas, mais de toute façon tout le monde a été en télétravail. Ensuite on est passé à une phase où on nous a dit il vaut mieux rester en télétravail, là c'était un peu le choix de l'entreprise, et ça a été un peu différent, donc on est effectivement resté en entreprise, c'est finalement sa conscience à l'entreprise qui a fait qu'on a tous maintenu le télétravail un maximum. Absolument, chez Satélécom aussi, pour tous les gens qui ne sont pas sur le terrain, bien entendu, on a maintenu le télétravail. Et on le maintient encore, ce télétravail. Alors on observe quand même cette deuxième phase où il y a une espèce de lassitude quand même à l'isolement,
sur
du full time, ou même sur du 80%, on voit pas assez ses collègues, il y a quand même une collaboration qui
est ralentie. Qu'est-ce qui manque, juste le côté
ralenti.
Social?
Il manque pas que le côté social, il y a aussi la coopération et la créativité qui sont quand même affectées par le travail en remote. Clairement, c'est une vraie bonne chose par rapport à notre empreinte écologique et par rapport à, je dirais, au confort de vie pour un certain nombre. Tout le monde n'habite pas à une heure de route de son travail. Mais il y a quand même un effet isolement. Et donc, il faut qu'on trouve le bon rythme. C'est la phase qu'on vit aujourd'hui, qu'on va vivre, je dirais, dans les prochains mois, dans toutes les entreprises, et chez Satélécom aussi. On est en train de réfléchir à comment on va continuer, finalement, après la crise sanitaire, à travailler en remote, à distance, peut-être pas dans les mêmes proportions, peut-être avec des outils différents, ceux qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire et d'autres, pour que tout le monde, finalement, se sente bien. Et la première chose à mettre en place, c'est d'interroger tout simplement les collaborateurs.
C'est ce que j'allais vous demander, du coup, c'est ça.
Et de leur dire comment vous avez vécu les choses et comment vous voulez les vivre demain.
Donc aujourd'hui, vous êtes sur quel timing à peu près? Vous êtes sur...
Ce qu'on prévoit, c'est d'interroger les collaborateurs d'ici fin septembre. Parce que là, il y a la phase de reprise, je dirais il y a aussi la phase de congé. On va essayer d'en profiter, de passer à une autre étape. Et à la rentrée, on va interroger les collaborateurs disant voilà, avant de discuter avec les partenaires sociaux, on aimerait bien connaître votre avis sur la manière dont vous avez vécu les choses et dont vous voulez les vivre demain.
D'accord. Ok. Ouais. Parce que là, il y a la réouverture des terrasses, tout le monde va revenir en présentiel. Hein.
Je pense.
Mais c'est un travail très intéressant d'interroger les collaborateurs sur ce point, parce que c'est vrai que souvent, il y a une notion qui n'est peut-être pas exacte. On s'attend, nous, on l'a vécu avec Thibaut, hein, on s'attendait vraiment à ce que, 50% de la boîte ne veuille pas rester en remote, et puis on s'est rendu compte que 100% en fait, le souhaitait.
Et ça va certainement bouger encore, donc d'où l'intérêt de poser la question pendant. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous voulez qu'on passe en full télétravail ou pas, et après, parce qu'effectivement il faut l'A/B test, hein, ça fait partie aussi du métier, mais d'A/B tester, d'être certain de savoir si la décision qu'on a prise elle est bonne ou pas. D'ailleurs nous aussi on va y passer, parce que
exactement.
Full télétravail, nous on a clairement laissé nos bureaux, quoi.
Il y a un autre sujet qu'on entend moins aujourd'hui. Alors, du fait de la crise sanitaire ou pas, peut-être que c'est un sujet qui a été oublié, qui s'est un peu fané, c'est finalement toute la partie, en fait, parler des générations, les recrutements sur les générations X, Y, Z, puis on a élargi la génération
Y. Tu crois ça, toi,
générations. Bah, justement, moi, j'y crois pas trop, j'y ai jamais vraiment cru, mais j'ai l'impression que la crise sanitaire nous donne un peu raison là-dessus, parce que finalement, on se rend compte que les générations, elles s'effacent au profit du recrutement en général, et qu'il y a moins de clivage, en fait, j'ai l'impression, après ce moment qu'on a tous vécu. J'ai moins vu de papier, en tout cas là-dessus, ces derniers temps.
Je dirais que quand on est sur un marché pénurique, c'est difficile de se dire je vais recruter de manière plus privilégiée dans une génération que dans une autre. Après, on est dans un secteur d'activité, peut-être, qui attire plus certaines générations, parce que là, il faut se dire qu'on peut recruter des gens 60 à 20 ans, quoi.
Il faut quand même les compétences techniques. Est-ce que ces compétences techniques ont évolué avec le temps? Est-ce qu'il faut une mise à jour des seniors en disant tiens, toi tu faisais ce métier, mais là il y a une mise à jour parce qu'aujourd'hui ça se fait plus de la même façon, et donc je ne recrute très très cliché que des jeunes parce qu'ils ont été formés à ça, et toi il faut que tu te formes senior pour travailler chez nous? Ou alors non, en réalité il y a une évolution technologique qui certes est compensée par une formation chez vous, quoi.
Ouais, absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on est sur un marché pénurique, on forme de toute façon les collaborateurs qui rentrent chez nous. Alors s'ils n'ont pas la compétence, on va les former, donc quelle que soit leur génération, et je m'appuierai dessus pour qu'on sache que SAT Télécom, c'est une entreprise où il y a énormément de diversité. On peut parler de génération, on peut parler aussi d'origine, et on essaye de développer sur des métiers de terrain, c'est pas forcément évident, la féminisation de notre population.
Ouais. Effectivement, est-ce que la parité, est-ce que vous arrivez à tenir quelque part une forme de parité, même si vous avez des métiers qui sont évidemment plus portés d'un côté que de l'autre?
On ne peut pas parler de parité, je crois. Non, mais c'est pas...
Ça vient des filières aussi, hein. C'est pas
ça
que
dépend des métiers, bien entendu. Ça dépend des métiers, d'abord. Hein. Il est toujours plus facile de recruter sur certains métiers parce que effectivement les gens qui sont formés sont de tout sexe de manière équitable. Maintenant, effectivement, sur les métiers de terrain, historiquement, culturellement, il y a plus de sur les métiers manuels, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais c'est un métier technicien fibre optique, par exemple, qui est tout à fait accessible. Sans force physique particulière, hein, parce que c'est ça qui fait la différence, on va dire, absolument. Ouais. Et donc, il y a des femmes qui travaillent déjà pour nous en tant que techniciennes. Sur le terrain, donc c'est tout à fait évidemment possible. On a des programmes dans notre filiale du Sud notamment qui sont à l'étude pour faire des promotions de formation vraiment 100% féminines.
Parce que c'est là où le bas blesse en réalité. Vous recrutez là où les gens sont formés, et si les femmes ne sont pas formées ou en tout cas ne choisissent pas ces formations-là, vous ne pouvez pas non plus...
Voilà. Et comme nous, on crée des sessions de formation, on s'est dit on va essayer de vraiment là pour le coup susciter la vocation aussi. Hein, je vous parlais de communication.
Okay. C'est un parallèle en fait. On peut faire le parallèle avec le bricolage. Aujourd'hui, beaucoup de femmes en fait
trouvaient que c'était inaccessible parce que les outils n'étaient pas adaptés, parce que c'était compliqué de poser du placo. Aujourd'hui, bah, finalement, ça demande moins de force physique. Donc vous aussi, dans vos métiers, vous êtes, de par les nouveaux outils qui sont mis à disposition, beaucoup plus à même de recruter des femmes.
Absolument, c'est même plus important, okay. Dans le sens où, là, effectivement, c'est du côté, c'est de la technicité. Il n'y a pas de encore moins de force, si je puis dire. Si on est dans les clichés et qu'on dit mais ça en fait partie, qu'il faut plus de force dans certains métiers plus difficiles, etc. En tout cas, en termes d'horaire et de gestion vie pro, vie perso, c'est tout à fait des jobs qui peuvent convenir à des,
absolument,
tout à fait, à des femmes, des
mères, l'équilibre vie privée et vie professionnelle est tout à fait bon quand on est technicien chez SAT Télécom. On n'explose pas, il n'y a pas de saisonnalité extraordinaire.
Ouais, c'est voilà, lycée, on, ça. C'est...
Voilà, absolument.
Merci beaucoup, Emmanuel Parviez. Merci pour cet échange très intéressant que nous avons pu avoir ensemble. Peut-être voulez-vous rajouter...
un mot de la fin.
Peut-être voulez-vous faire
des techniciens nous écoutent. Sans faire un appel au recrutement, mais c'est quoi les prochaines échéances? Alors, chez SAT Télécom,
les prochaines échéances, c'est des appels d'offres en cours et donc encore de la croissance à venir. Donc effectivement, pour moi, des RH, c'est d'arriver à attirer, recruter et fidéliser les bonnes personnes pour les bons postes. Et donc, si des gens sont intéressés effectivement par le métier de technicien télécom, fibre optique, cuivre ou radio, qu'ils prennent contact avec SAT Télécom. On est une entreprise qui va se différencier sur le marché, qui est nouvelle, qui a plein de bonne volonté et qui a une croissance extraordinaire. Donc, je crois que c'est des éléments qui parlent pour eux.
Exactement.
On suivra de près en tout cas la digitalisation de l'expérience et du processus candidat. Merci encore.
Merci Emmanuel.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.